Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue en Classe Éco. Merci à tous les inconditionnels de ce programme qui, entre 10h et 12h, répondent présents à l'appel des airs. Ici, on parle d'économie, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'innovation. Donc, si vous souhaitez écouter quelque chose de différent, installez-vous parce que sur volume 3, on change vos habitudes d'écoute. Pour ce qui est du vol de ce mardi, voici ce qui est prévu.
Aujourd'hui en Classe Éco, l'expertise est agricole et on va parler de la préparation du sol avant les semis. On va déguster de l'hydromel et des boubous au miel avec notre passager du jour, Armel Landry et Quabman. Au marché aujourd'hui, on va acheter du manioc. Nous ferons escale dans le quotidien de Théo, journaliste. L'innovation du jour, c'est YubaWeb. Et dans l'Afrique économie, nous allons en Afrique où le commerce des denrées est 6 fois supérieur aux données officielles selon une étude de l'OCDE.
Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous avez juste manqué le plan de vol. Vous pouvez encore bien vous installer parce qu'aujourd'hui, on vous a réservé plein de choses. Vous le savez, l'expertise du mardi, elle est agricole. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup qui se lancent dans l'agriculture, mais il est important d'avoir des prérequis. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la préparation du sol avant les semis? Éléments de réponse avec notre expert agri, Rigobert Ewane.
L'expert dans Classico. Dans Classico.
Les opérations de préparation du sol avant les semis ou les plantis. Déjà, avant de voir les différentes opérations qui consistent à préparer le sol, il est important d'abord de voir les différentes opérations de préparation du site, qui sont l'ensemble des tâches qui vont permettre d'avoir une parcelle propre et prête à être exploitée. Alors, les opérations de préparation du site ici varient selon le cas où nous sommes sur une forêt ou nous sommes sur une jachère. En ce qui concerne la forêt, l'activité va consister à faire le sous-bois préalablement. Le sous-bois qui est une activité qui consiste à découper les lianes, les petites herbes, les arbustes dont le diamètre ne dépasse pas 5 cm. Et cette tâche a essentiellement pour but de faciliter le déplacement du scieur dans la parcelle. Donc ensuite, on va assister à l'opération d'abattage proprement dit. L'opération d'abattage qui consiste à abattre et à mettre au sol tous les arbres qui se trouvent dans la parcelle. Ensuite, on va assister à l'opération de brûlis ou alors de nettoyage complet. Mais dans la plupart des cas, il s'agit du brûlis. Après le brûlis, on va assister à l'opération de rabattage qui va consister à découper tous ces arbres qui ont été préalablement abattus. Après, donc, vient l'opération de nettoyage complet qui va consister à transporter tous ces arbres, tous ces troncs d'arbres qui ont été découpés lors du rabattage, qui vont certainement être utiles comme bois de chauffage ou alors qui vont permettre de pouvoir délimiter la parcelle pour éviter l'entrée des intrus ou alors des rongeurs dans la parcelle. Là, c'est ce qui concerne le cas de la forêt. En ce qui concerne le cas d'une jachère, l'activité consiste tout simplement à défricher à ras le champ, à nettoyer par la suite. Ça peut être par le brûlis, ça peut être à la main. Et là, on a un site qui est prêt à être exploité. Une fois les opérations de préparation du site terminées, on va donc assister aux opérations de préparation du sol avant le semis ou le plantis. Et ici, on va prendre l'exemple sur deux cultures, notamment la culture du bananier plantain et la culture des légumes feuillus. En ce qui concerne la culture du bananier plantain, on va déjà commencer par le piquetage. Le piquetage qui est une activité qui consiste à délimiter les points de planting, c'est-à-dire les endroits où est-ce qu'on va exactement faire les trous où vont être plantés nos différents bananiers. Après avoir donc fait le piquetage, on va assister à l'opération de trouaison. Cette trouaison peut se faire avec des pelles ou encore avec une troueuse mécanique. La trouaison s'effectue sur 30 cm de diamètre, sur 30 cm de profondeur. Après la trouaison, on va assister à l'opération de fumée de fond, qui est une activité qui consiste à mélanger une partie de la terre qui était sortie du trou, de préférence la première terre, avec de la matière organique. Ça peut être de la fiane de poulet de chair, ça peut être de la bouse de vache, ça peut être des crottins de porc, etc. Après donc la fumée de fond, on va laisser le mélange se minéraliser pendant minimum une semaine, ce qui va donc permettre à la terre qu'on aura préalablement mélangée avec la matière organique de bien se minéraliser, de bien pourrir et d'enrichir le sol. Question de nourrir la plante ou alors le bananier plantain qui va être planté par la suite. En ce qui concerne les légumes feuillus qui peuvent être le basilic, le poireau, la morelle noire qu'on appelle généralement le folon, la préparation du sol va consister à effectuer tout d'abord un piquetage qui va nous permettre de délimiter sur les lignes sur lesquelles on va effectuer notre labour. Ensuite, on va effectuer un labour en planche de 10 mètres de longueur sur 1,2 à 2 mètres de largeur. Ensuite, on va effectuer l'opération de fumée de fond qui va consister à verser de la matière organique, comme je l'ai dit, qui peut être de la fiente de poulet de chair, qui peut être de la bouse de vache, des crottins de porc ou des urines de lapin qui sont très très fertiles. Ensuite, on va laisser minéraliser, c'est-à-dire fermenter et enrichir le sol, enrichir nos planches pendant minimum une semaine, et là nos différentes planches seront prêtes à accueillir les différents plants. Et donc, sur la base de ces deux exemples, on comprend très bien que la préparation du sol diffère d'une culture à une autre. La préparation du sol varie selon la culture qu'on veut faire.
L'expert dans Classico. Dans
Classico. Classico.
Pause. Classico se passe aussi sur notre application. Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant, et j'ai envie de vous dire que comme tous les jours, on reçoit un passager, un entrepreneur qui vient nous parler de son entreprise, de son projet, de toute l'histoire. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir de qui il s'agit, on discute juste après.
Notre passager du jour a un parcours d'or admirable. Il remet au goût du jour une boisson médiévale célèbre à son temps. Il a fait ses classes au Collège Régional d'Agriculture des Bolova. Et aujourd'hui, les consommateurs peuvent consommer son savoir-faire. Il sait se servir du produit des ruches qu'il décline en boissons alcoolisées et en sucreries. Classico, le plaisir de recevoir Armel Landré et Kwaman, promoteur de bioproducts. Bienvenue à bord.
Merci Viali pour cette présentation. Vous l'avez compris, on reçoit donc aujourd'hui Armel Landry et Kwapmam, promoteur de bioproducts. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez Volume 3.
Merci. Non,
on cherche le prénom, c'est Nadine. C'est bon. ça va, vous êtes bien arrivé. C'était pas très compliqué de se retrouver. Vous êtes habitué de là quand même.
Oui. Je suis bien arrivé en fait.
Ok. Moi, quand j'ai regardé un tout petit peu, je me suis arrêtée au Collège Régional d'Agriculture des Bolova. C'est où vous avez fait vos classes. Ça, c'était quoi? Directement après le bac?
Non, pas directement après le bac. Parce qu'après le bac, j'ai fait l'université de Douala. Mm-hmm. J'ai fait la filière physique.
Ok.
Physique chimie en fait.
Mm-hmm.
Où j'ai fait un an.
Ça ne donnait pas.
Science. Pas que ça ne donnait pas. C'est vrai que j'avais des objectifs. Même en choisissant cette filière, j'avais des objectifs.
Oui.
Bon, malheureusement, les choses ne se sont pas très bien passées, mais je me suis penché vers l'agronomie.
Justement, qu'est-ce qui vous envoie dans cette... Parce que quand on fait physique, quand même si c'est... Je ne me dis pas que c'est à la base, est-ce que c'est l'agriculture que vous vouliez faire et tout ça, ou bien on a changé de cap?
Bon, disons, au départ, les objectifs étaient beaucoup plus vers des écoles d'ingénierie, comme, je ne sais pas, Polytech ou
oui.
autre. Bon, j'ai fait Polytech, ça n'a pas vraiment marché en termes de
résultats.
De résultats, oui, mais malheureusement, j'ai été recommandé par un frère, un grand frère, qui m'a parlé du Collège régional d'agriculture de Bolova.
Vous n'en aviez jamais entendu parler avant qu'il vienne vous dire ça?
Non. Disons que c'était une découverte.
Et quand on se destinait à une carrière d'ingénieur et tout ça, et qu'on vous dit d'aller au collège d'agriculture, vous vous dites quoi? Il se fout un peu de moi ou bien essayons?
Bon, j'ai essayé, comme vous avez dit. Et puis, bon, disons que j'ai trouvé ma passion là-bas, en fait.
Ok.
Au départ, ce n'était pas trop ça, mais dès que je me suis lancé, et puis je suis arrivé, j'ai fait le concours, ça a marché par la grâce. Je suis allé là-bas, j'ai trouvé un cadre qui sied à moi parce que, jusque, comment on dit, j'ai grandi avec l'agriculture.
Oui.
Voilà, j'ai grandi avec l'agriculture, donc du coup, je me sentais à l'aise, je me sentais chez moi là-bas en fait.
Donc là-bas, c'est, on apprend seulement l'agriculture ou on fait un peu d'élevage, on fait un peu de transformation aussi?
Oui, c'est agro-pastoral et agro-alimentaire en général. Donc on fait l'agriculture, l'élevage et puis. Il est quand même assez important de former des gens à être capables de transformer.
Oui.
Voilà ce qu'ils produisent.
Donc, c'est souvent... on y passe combien de temps?
Bon, déjà au collège régional d'agriculture, c'est 2 ans.
Mm-hmm.
Après le bac, en fait, tout dépend du cycle qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi le cycle après bac, donc niveau bac, en fait.
Mm-hmm.
Donc là, c'est 2 ans pour sortir technicien supérieur d'agriculture avec l'option conseil agro-pastoral. Donc, je suis conseiller agro-pastoral.
Le conseiller agro-pastoral fait quoi concrètement? Nous qui ne connaissons pas les choses de Chara.
Oui, donc là, en fait, ils accompagnent des acteurs du monde rural, donc des producteurs, et dans le cadre de leur production, donc sur le plan technico et économique aussi.
D'accord. Et donc, aussi, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer dans un projet d'élevage, dans un projet agricole, on peut se tourner vers vous pour que vous lui donniez un tout petit peu la démarche à suivre.
Naturellement, oui.
D'accord. Maintenant, vous avez étudié l'agriculture, la transformation. Qu'est-ce qui vous fait vous tourner vers le miel? Pourquoi le miel?
Bon, et pour le miel, disons...
Il faut se rapprocher du micro. Voilà.
Bon, comme je disais tantôt, pour le miel... C'est pendant mes exercices sur le terrain, après la formation à Bolova, je me suis lancé dans une activité de commercialisation des produits agro-pastoraux,
mm-hmm.
en général, oui. En l'occurrence, le miel.
Oui.
Et là, je me suis rendu compte pendant cet exercice, ce côté qui est un peu lent du marché. Mm-hmm. J'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux bien faire de ce miel-là qui est... pour davantage aussi étendre le marché aussi à, voilà, j'ai fait mes recherches et tout et tout, je me suis trouvé les différents dérivés qu'on peut faire du miel,
mm-hmm.
notamment l'hydromel et les confiseries et tout et tout et tout et tout. Bon, je me suis lancé, j'ai commencé à faire mes recherches et tout.
Les recherches, voilà. Ça a pris combien de temps?
Aujourd'hui, on est à 3 ans. Ah, oui, 3 ans, ouais.
Donc vous avez fait des recherches pendant 3 ans ou bien vous continuez à faire les recherches?
Disons je continue. Déjà on a un produit qui est déjà consommable, qui peut plaire aux consommateurs, ou alors qui plaît aux consommateurs déjà. Mais on continue toujours de travailler pour davantage améliorer.
Donc c'est parce que vous aviez un peu trop de miel qu'on ne vendait pas assez vite. Vous avez dit que puisque de toutes les façons on boit de l'alcool, si j'en fais de l'alcool, ça va aller.
parfaite.
D'accord. Maintenant, c'était pas vraiment la passion du départ, c'est la situation économique qui vous a fait voir un tout petit peu l'opportunité de faire ce business. Donc, c'est un produit à base de miel. Du coup, au départ, vous achetiez le miel. Le miel, il vient. Est-ce qu'il y a une provenance en particulier? Parce qu'il y a toujours les débats sur le miel. Est-ce que c'est pour le nord? Est-ce que c'est pour l'ouest? D'où il vient le miel?
Bon, déjà, quand je me suis lancé dans la production de l'hydromel que vous connaissez, j'ai dû d'abord, pendant mes recherches, tester plusieurs types de miel parce que, en fonction des zones agroécologiques, on a des miels de saveurs différentes. Mm-hmm. Il a fallu que je teste ci, je teste ça.
Donc, on peut retrouver quelles saveurs différentes en fonction des zones agroécologiques?
Bon, déjà aussi, la saveur du miel dépend aussi parfois de quel type de fleurs. Mm-hmm.
Tout ce que vous connaissez, c'est qu'il y a le miel d'eucalyptus. Le reste, là...
Voilà, mais l'eucalyptus, c'est une plante, c'est une essence forestière, si je ne me trompe pas. Déjà, quand le miel, l'abeille, lui, consomme son miel, forcément, le goût aura le goût de l'eucalyptus. Par contre, il y en a parfois dans d'autres zones où les abeilles piquent un peu de partout. Oui. On en a ce qu'on appelle le miel de tout fleur. Mais jusque-là, selon aussi, comme j'ai dit, selon des zones agroécologiques, on aura toujours des saveurs assez différentes. Bon, moi, après mes recherches, j'ai eu cet apiculteur avec qui je travaille, qui m'a donné quelque chose qui est assez satisfaisant, en fait.
D'accord. Donc, vous ne vous êtes pas lancé dans « oui, je vais avoir mes propres rues, je préférais travailler avec les apiculteurs ».
Bon, j'ai réfléchi à pouvoir mettre mes pauvres, mais pour le moment, je travaille avec les apiculteurs.
Justement, trouver cet apiculteur-là avec qui vous pouviez travailler, est-ce que c'était facile? Vous en avez testé combien?
Pratiquement 5.
Toujours dans quoi? Dans le Grand Ouest?
Oui, la plupart, oui. L'autre venait du nord, l'autre du centre, mais le reste, du Bafoussam, Bafang et tout. Bon, disons que la plupart viennent de l'ouest.
D'accord, donc quoi, vous travaillez avec aujourd'hui un seul apiculteur ou plusieurs?
Pour le moment, je travaille avec un seul apiculteur.
D'accord, ça veut dire que niveau quantité, il a quand même une grande production.
Oui, il y a un miel assez satisfaisant.
D'accord. J'ai envie de dire que depuis le temps qu'on reçoit les gens ici qui font du vin et tout ça, on sait que tout ce qui a du sucre peut devenir de l'alcool. Mais quand même. Moi, c'est dans les films qu'ils voient l'hydromel. Si j'avais passé à côté en dehors du salon de l'artisanat du parcours Vita pour le département du Voury, c'est quoi les grandes lignes pour passer du miel à l'hydromel?
Déjà, le miel, comment on dit ça, a ce qu'on appelle des ferments, les ferments endogènes.
D'accord.
Mais néanmoins aussi pour mieux ou alors pour catalyser aussi cette fermentation. Déjà, je rappelle, on obtient cet hydromel par fermentation du miel.
D'accord.
Voilà.
Donc, ce qui veut dire que quand on a recueilli le miel, c'est quoi les grandes lignes pour arriver à l'alcool?
Déjà, on passe d'abord, on y ajoute, j'associe le miel avec de l'eau, mm-hmm. l'eau de source, de l'eau minéralisée de source, naturelle bien sûr. Où on a introduit dans des cuvées de fermentation après une bonne formulation. Donc il y a une certaine quantité de miel à ajouter.
Mais ça, c'est le secret d'un bioproduit.
Voilà. Donc après avoir bien analysé selon le taux de sucre ou alors le taux d'alcool prévisionnel qu'on souhaite avoir, mm-hmm. et selon le sucre résiduel qu'on souhaite aussi avoir à la fin, et on fait cette formulation. Bon, on y ajoute donc des ferments exogène avec un taux d'alcool, comme vous pouvez voir, on est titré à 12% d'alcool.
Oui. Et après la fermentation, il y a une durée minimum, maximum, comment ça se passe? Ou bien ça dépend?
Déjà, la fermentation, lui, du pratiquement, on est sur, pour partie de la fermentation jusqu'à la clarification, on est pratiquement sur un mois.
D'accord.
Après ça, on passe à ce qu'on appelle le vieillissement. Donc, okay. Comme vous pouvez voir, mon vin, lui, il est à un an d'âge déjà, 2024.
D'accord. Bon, je veux qu'on s'arrête un peu à la clarification, parce qu'on peut parler de quelque chose qu'il ne comprend pas, il reste tranquille. On a compris la fermentation. Maintenant, la clarification, c'est quelle étape avant le vieillissement?
En fait, c'est l'étape qui remplace. Généralement, pendant la fermentation, il y a cette nuance de levure ou alors de mélange de ferments,
oui.
avec le miel.
Mm-hmm.
Bon, il est question donc de d'enlever donc cette nuance de ferment là,
mm-hmm.
pour avoir quelque chose de présentable, d'assez propre.
Et... C'est quoi, il y a une couche qui se forme au-dessus ou bien c'est mélangé et puis il faut on va dire quoi, je sais pas s'il faut dire tamiser parce que le vocabulaire c'est...
Bon, il y a ce qu'on appelle des clarifiants.
Mm-hmm.
Nous, puisqu'on est dans quelque chose d'assez naturel,
oui.
bon, nous on fait usage des clarifiants naturels.
D'accord.
Comme voilà. On fait usage pour préciser de l'albumine du blanc d'œuf.
L'albumine du blanc d'œuf.
Voilà.
Je ne pourrais pas imaginer que pour faire le vin, on va se retrouver avec les œufs. Mais bon, vraiment, ça c'est physique, chimie, ceux qui ils comprennent le rayon là. Moi, vraiment, ça me dépasse un peu. Maintenant, dans le développement, on a l'hydromel pur et puis on a ce que vous avez appelé le mélomel. Comment on arrive, est-ce que c'est parce qu'il vous fallait nécessairement du rouge ou c'est parce que vous vouliez tester autre chose? Comment on arrive à se dire que oui, on va au miel, on va ajouter de l'oseille?
Bon, là, honnêtement, c'est plus ou moins une petite innovation pour nous. Les mélomènes, ça existe, c'est assez connu. Ce sont des vins de miel associés à d'autres spéculations. Nous, on l'a associé pour nous avec de l'oseille,
mm-hmm.
qui donne cette robe rouge au vin et aussi une certaine autre saveur, en fait,
ouais.
pour faire différence et aussi toucher une large gamme de toucher au maximum de consommateurs.
Donc vous avez commencé par le blanc. À quel moment vous dites qu'il faut faire du rouge? Est-ce que vous testez plusieurs avant de décider que ce serait l'oseille?
Non, déjà avec l'oseille, déjà en fait pas ses propriétés.
Oui.
Voilà, donc du coup on a choisi l'oseille. Après avoir fait plusieurs tests d'abord sur notre hydromel blanc,
mm-hmm.
et avoir même un résultat assez satisfaisant, on s'est dit que bon, on peut essayer d'évoluer un peu et améliorer en fait les choses. Bon, on a pensé choisir l'oseille pour associer avec notre mélomel et avoir cette robe rouge là.
D'accord, et au niveau process, c'est le même si on fait fermenter ensemble l'oseille avec le miel et on ajoute tout ce que vous... Là, il y a une différence.
Non, c'est le même process déjà. On associe au départ, en fait, avant mm-hmm. de fermenter.
D'accord, et on reste sur le même temps. On a dit quoi? C'était deux mois pour la fermentation. La clarification, c'est rapide et le vieillissement, c'est minimum un an.
Voilà.
Donc, ce qui veut dire que chez vous, rien ne sort pour être mis sur le marché avant un an, c'est ça?
Bon, un an, c'est parfois aussi, on parlait sur 8 mois, 5 mois. Le temps quand même d'avoir quelque chose d'assez fini, assez mature en bouche en fait.
Mm-hmm. Donc c'est minimum 5 mois avant la mise en bouteille.
Mise en bouteille chez nous, ouais.
D'accord, et tout ça, on sait que chez nous, on parle de ceux qui font le vin, là, on sait que les gens n'ont pas les fûts de chêne et tout ça, comme on dit souvent, on utilise quoi? Il y a un matériau de prédilection pour le vieillissement?
Déjà, dans la viticulture, on peut faire usage de matières plastiques. On fait usage de matières plastiques, de matières en bois,
mm-hmm.
et aussi en verre.
D'accord.
Bon, chez nous, pour faire vieillir, nous, on utilise des dames-jambes en plastique.
Ok.
Des dames-jambes, ouais.
Comme pour le type vin de palme qu'on voyait souvent avant dans les grandes... Ok, d'accord. Maintenant, comment le produit, il est sur le marché depuis quelques... Ça fait combien de temps exactement?
Nous sommes entrés sur le marché, ça va faire déjà 2 mois seulement.
Voilà,
mois,
justement, ouais. Parce qu'il me semblait quand même assez jeune. Les premières réactions... Quand vous êtes dans les foires, dans les événements, quand on vous voit avec votre vin et puis vous dites que bah, ah, c'est du miel.
Oui, bon, jusqu'ici, c'est très apprécié quand même par les différents consommateurs.
Mm-hmm.
Les réactions sont plutôt très bonnes pour nous, mais on sait que davantage, il faut toujours améliorer.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a toujours les appréciations et aussi des remarques,
oui.
forcément, pour nous aider toujours à améliorer.
D'accord. Donc, il y a un distinguo que je voulais qu'on fasse. Il y a Bioproduc, qui est quoi? L'entreprise mère qui porte, je suppose que c'est celle que vous avez créée au départ quand vous vouliez juste vendre les produits. Et on a gardé pour le nom de l'entreprise. Par contre, le vin, il est vendu sous l'appellation Mimniam. J'espère que je prononce bien. Bon. Dans ma langue, je sais que mime, c'est la boisson. Niam, maintenant, c'est quoi? C'est le miel? Ou bien c'est quoi?
Miam, c'est Dieu.
D'accord. Ah, le vin, c'est le vin des dieux. Le vin des dieux.
Voilà.
D'accord. Ok. Bon, vous avez compris, hein, c'est le vin des dieux, mais ne pensez pas que vous allez vous transformer. Hein. Pourquoi c'est important pour vous donner ce nom-là?
Généralement, on appelle l'hydromel le vin des dieux. Bon, déjà, peut-être pour ceux qui savent ce que c'est que l'hydromel, c'est une vieille boisson médiévale qui a toujours été considérée comme une boisson divine, si je peux dire ça ainsi.
Mm-hmm.
Maintenant, nous, on a voulu donc, puisque pour ramener ça à notre tradition, juste traduire ça en notre langue locale,
oui.
qu'on l'appelait maintenant Memniam, qui signifie le vin des dieux.
D'accord. Et puis, vous ne vous êtes pas arrêté là, parce qu'avec du miel également, vous faites des bonbons.
En effet, oui. Avec du miel également, on fait des bonbons. Des bonbons qu'on appelait notre marque Ola.
Oui.
Ola bonbons à base de miel.
On va dire que vraiment, je n'ai pas l'habitude. Je pense que quand je vais voir pour vous en dehors des réseaux, ce sera peut-être le premier bonbon au miel que je verrai. Mais pourquoi décider de faire des bonbons avec du miel?
Bon, comme je vous ai dit, j'ai voulu toucher au moins au maximum.
Donc, si on ne peut pas boire l'alcool, on peut au moins toucher les bonbons.
Déjà, on ne se limite pas seulement aux adultes, on touche aussi la galerie des tout petits.
Mm-hmm.
Avec des bonbons à base de miel.
100% miel, il n'y a rien d'autre.
Bon.
Ou on gélifie un peu, comment ça se passe?
Nous, pour faire gélifier, comme vous avez dit, on fait usage des sirops de glucose.
D'accord. Mm-hmm. Sirop de glucose, avec le miel qui est déjà sucré, j'ai envie de dire que le sucre plus le sucre, ça n'est pas trop sucré ou bien on réussit à stabiliser ça?
En réalité, oui, c'est bien quantifié. C'est bien quantifié à ne pas déborder. Parce qu'on a quand même de nos outils d'analyse où on contrôle les différents taux de sucre à chaque préparation, en fait.
D'accord, ça veut dire que comme c'est les bonbons et que c'est le miel et que c'est pas censé être, c'est pas nocif normalement, on peut en consommer à volonté ou bien on limite quand même un peu parce que c'est toujours les dents, les enfants, il y a les grands enfants aussi, mais bon.
Bon, c'est déjà ce sont des sucreries et comme on dit souvent que tout à l'excès nuit.
Donc on va pas penser que c'est parce que c'est le miel que ça va passer.
Forcément non.
D'accord, ça vous a pris combien de temps pour développer ce produit-là aussi? Parce que si le vin il est sur le marché depuis 2 mois, c'était pendant durant le même temps, la même période que vous avez fait tester aussi pour les bonbons au miel?
En effet, oui, c'est toujours pendant cette même période-là, en fait. Mais déjà, le bonbon, lui, il est sur le marché avant le vin.
Mm-hmm.
Parce que lui, au moins, c'est assez rapide, on fait vite et puis on met directement à la portée des différents consommateurs. Lui, s'il ne prend pas du temps. Bon, maintenant, là, on a toujours voulu, dans l'optique d'améliorer aussi, changer un peu notre packaging, toujours satisfaire la demande des différents consommateurs.
Oui, c'est la raison pour laquelle sur nos réseaux aujourd'hui, vous ne verrez pas la photo des bonbons. Oh là, mais quand il va recevoir mon carton, je vais vous montrer. Donc, en ce moment, on est dans le process de changement de packaging et tout ça.
En effet, oui.
D'accord. Et ça, sur le marché, ça se passe plutôt bien?
Oui. C'est toujours assez timide parce que encore peu connu par le grand public. Raison pour laquelle nous, on se bat à notre niveau pour faire valoir au mieux notre...
C'est la sensibilisation. J'espère que votre passage en classe éco aujourd'hui va servir aussi à cette sensibilisation, à populariser ces produits que vous vous battez à mettre sur le marché, parce que je pense que c'est quand même une petite révolution dans l'univers des produits locaux, parce qu'on est habitué au vin, on savait déjà que pour l'oseille, mais l'oseille associée au miel, on voyait oseille ananas et tout ça. Le miel, ça change un peu. Du coup, aujourd'hui, niveau quantité, quelle est la quantité de miel dont vous avez besoin quand il faut lancer une production de vin ou une production de bonbons?
Disons que par mois ou alors par cycle de production, on peut aller sur pratiquement une soixantaine de litres de miel.
D'accord. Avec 60 litres de miel, on sait à peu près combien de bouteilles d'hydromel on aura. Ou bien ça dépend?
Bon, forcément, ça dépend. Ça dépend parce que il y a d'abord, au cours du process, il y a forcément les quantités qui vont être perdues à la fin. Mais néanmoins, quand on finit un autre cycle de production, on se dit bon, on peut facilement, par rapport à la quantité du départ et la quantité à la fin, on peut facilement dire que okay, si on fait usage de peut-être 20 litres de mion, on peut avoir peut-être, dit n'importe quoi, 40 ou 50 bouteilles de vin.
D'accord, complètement, quand c'est seulement l'hydromel, mais je pense qu'on peut en avoir plus quand on associe l'oseille.
Bon, non, pas, c'est toujours la même chose.
Ah bon? Pourquoi? Alors qu'on ne diminue pas la quantité de miel pour ajouter l'oseille?
Je rappelle juste que l'oseille, lui, il nous donne juste cette
robe, couleur.
Cette okay. robe rouge. Et aussi, en fait, on extrait forcément son côté jus, si mm-hmm. on peut appeler ça comme ça.
Oui.
Mais ce n'est pas l'oseille qui entre dans la bouteille.
Ok, d'accord. Donc l'oseille, c'est juste par souci de vous proposer une autre couleur. Maintenant, en termes de saveur, on est plutôt sur un vin sec ou alors plutôt un moelleux?
Je dirais un demi-sec.
D'accord.
Demi-sec avec un taux de sucre vraiment très limité.
Alors que ce soit le blanc ou le rouge, on est sur un demi-sec.
Oui, on est sur un demi-sec. Situé à 12% d'alcool, pour le moment, on travaille sur 12% d'alcool.
C'est pour augmenter ou bien c'est pour diminuer? Quand on dit pour le moment là?
En réalité, bon, on comptait toujours forcément proposer du sec, du moelleux et du demi-sec.
D'accord.
Peut-être on peut aller sur 10 ou 11% pour le moelleux et aller peut-être sur le sec à 14 ou 13% d'alcool.
D'accord. Je rappelle que le produit, il est jeune, donc pour l'instant, on va se contenter sur le marché du demi-sec. Quand on va revenir tout à l'heure, monsieur Ekwokmem va nous dire c'est quoi les prix, où est-ce qu'on retrouve les produits en sec dans ce programme. C'est la partie que vous attendez, là où on parle nécessairement d'argent. Il va aussi nous dire un peu combien de millions il a rassemblé pour lancer un tel projet. On va marquer la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce programme.
Le passager du jour dans Classico.
Bienvenue au Classico.
Normalement, les bactéries et les pathogènes ne prolifèrent pas dans un milieu alcoolique.
Ok. Donc, même si on a à vie.
Justement. Et l'une des particularités également des alcools, c'est que on dit souvent, plus le vin vieillit, plus il se bonifie avec le temps.
Mm.
Voilà, et c'est la particularité des alcools également, que ce soit les liqueurs, même le rat. Donc, plus ça dure,
mieux, ça.
Mieux le goût.
Tant qu'on attend, voilà. Je ne suis pas encore passé. Je ne suis pas encore passé. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de penser que mais le rat.
Retrouvez Nadine Enanguet de lundi à jeudi entre 10h et 12h. 12h. Seulement sur volume 3.
Classico.
Hé, pause. Classico se passe aussi sur notre application volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour dans Classico.
Merci beaucoup à Tina Ndjongo pour ce flash d'information. Nous sommes de retour dans ce studio pour la deuxième et dernière partie de l'échange avec notre passager du jour qui n'est autre que Armel Landry Ekwokmem, promoteur de bioproducts et donc qui nous propose aujourd'hui du vin de miel et des bonbons au miel. Donc, tout à l'heure, on parlait des catégories. On a le blanc, on a le rouge. Maintenant, ça coûte combien?
Déjà, la bouteille, c'est 5000 francs, la bouteille.
Beaucoup d'argent comme ça. Donc, toutes les ça n'existe qu'en 75 centilitres.
Oui. Ça n'existe que pour le moment, ça n'existe qu'en 75 centilitres, ouais.
D'accord. Et une bouteille, que ce soit le rouge ou le blanc, c'est 5000. Ou bien?
Bon, ça, c'est le prix de la bouteille. Il y a aussi le paquet, le packaging de 6 bouteilles, le carton de 6 bouteilles qui coûte 21 000 francs. Donc, un peu moins que des 5 000.
On calcule déjà comme ça. Donc, une bouteille, 5 000, ça, c'est au détail. Si on prend le carton de 6, ça fait 21 000.
Donc, à peu près 3 500 francs la bouteille.
D'accord. Donc, si on veut payer à 3 500, il faut acheter le carton. En tout cas, et pour les bonbons?
Bon, le bonbon, on a ce paquet de 50 bonbons qui coûte 900 francs.
D'accord, 50 bonbons, 900. C'est pas cher pour les bonbons. C'est la poche des parents qui pleut. Donc, ça existe seulement sous le conditionnement de 50 bonbons.
Oui, On a des bonbons, des petits roulés qui peuvent être retrouvés aussi individuellement dans, des, dans nos points de distribution à 25 francs le bonbon.
Donc, si on trouve ça dans un point de distribution, à l'unité, c'est 25. D'accord. Du coup, tout ça, on achète où? Si on veut en acheter, où est-ce qu'on va?
Déjà, bon, pour le vin, pour le moment, nous, on travaille avec des boutiques spécialisées Made in Cameroun.
Lesquelles?
Nous sommes actuellement à Mon Market.
Oui, ça c'est à Yaoundé.
Centre artisanal de Yaoundé. Oui. On a 15 ans Market.
Oui, ça c'est encore Yaoundé. À Douala, on fait comment?
À Douala, nous sommes à Oxy Market. Ils sont à Dobon Bifaga.
D'accord.
À côté de. Comment on appelle encore l'hôtel là, quelque part dans Bon Bifaga là.
Moi, je connais le Carrefour Bifaga. Le reste des choses qui est à côté là, c'est un peu compliqué. Donc, ça s'appelle Oxy, c'est ça?
Oxy Market.
C'est une boutique spécialisée aussi.
Oui.
D'accord. C'est le seul point à Douala pour l'instant. Alors pour qu'il y en a déjà deux à Yaoundé.
Il y en a même trois à Yaoundé.
C'est juste. Bon, le dernier point de Yaoundé, c'est où?
Ils sont à Kinda Shop. Ils sont,
chez Kinda. Oh, d'accord.
Kinda Shop, oui.
Ok. Bon, pourquoi il y a la préférence de Yaoundé? À Douala, on doit seulement marcher dans tout le pays ou bien c'est comment?
Bon, disons qu'on s'étale sur le marché petit à petit et progressivement en fonction de...
De la demande.
De la demande, non seulement de la demande, aussi notre moyen en fait, de promotion qu'on a à notre niveau pour le moment.
Donc, il y a plus de facilité dans ces points de vente du côté de Yaoundé qu'à Douala.
Voilà.
Ok. Ouais, bon, tous ceux qui tiennent les boutiques de produits locaux à Douala, je sais pas, il y a quoi, Ampiat, Adeido, je sais pas si Mbo, mais encore là, ou chez Sanzo, peut-être que c'est un produit qui va vous taper dans l'œil et que vous trouverez. Parce que c'est aussi les histoires des accords, peut-être que ça peut marcher. Mais sinon, est-ce qu'à Douala, on peut se faire livrer?
En effet, nous on livre partout. Donc le client a la possibilité de commander directement à notre niveau, qu'il soit à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas où, au Cameroun.
Pour commander, il y a un numéro appelé?
En effet, oui. Le 650 17 42 03.
Et à ce moment-là, quand il faut expédier, je suppose que vraiment une bouteille, ça ne vaut pas la peine, c'est le carton, c'est ça?
Au moins c'est un carton. En réalité, le carton c'est plus facile, au moins c'est pour la manutention, même dans dans les moyens de transport.
Oui. D'accord. Du coup, il me semble que l'usine elle est à Kekem, c'est ça?
En effet, oui.
Pourquoi à Kekem?
Bon, déjà, c'est mon village natal. Déjà,
Non, il fallait aller au village.
Non, et aussi, on a choisi Kikem déjà pour son climat. Parce que la viticulture, il y a d'abord la température, elle est assez importante. Elle comptait aussi beaucoup.
Il faut que ce soit frais.
En effet, oui, il faut que ça soit frais. Quand on n'a pas encore peut-être autant de moyens pour mettre à disposition un climat adéquat, on peut qu'aller là où c'est ça. Ça
on a besoin de dépenser pour ça.
Voilà.
D'accord, et justement, à Kekem, comment ça se passe les journées entre production de vin, production de bonbons, récupération de miel et tout ça? Vos journées, elles ressemblent à quoi?
Bon, déjà, je ne fais pas uniquement dans la transformation, je fais aussi dans les produits, la production champêtre, les activités champêtres.
Normalement, après avoir étudié l'agriculture et avoir grandi dans les champs, on va laisser ça comment?
Voilà, justement, c'est mon quotidien en fait. Ici, je ne suis pas dans mes travaux champêtres, je suis dans mon unité de production.
Les travaux champêtres, c'est également destiné à la commercialisation ou bien c'est pour les besoins alimentaires, cela?
Bon, destiné à la commercialisation, bien sûr.
Et là-bas, on retrouve quoi?
Bon, nous on fait dans les cultures maraîchères et pérennes aussi. Comme maraîcher, on est beaucoup plus dans du piment, du gombo.
Ok.
Et comme culture pérenne, on est dans le cacao, le café.
Le cacao, qui vaut quelque chose en ce moment-là.
Voilà, bon, et puis forcément aussi dans l'élevage porcin. En fait.
Donc, ça veut dire que tous les jours, vous n'êtes pas à l'usine de production.
En effet.
C'est quoi, on s'entend avec l'apiculteur, tu vas me livrer mes 60 litres de miel, ce qui veut dire que je peux programmer la production ou bien c'est... Il y a des périodes.
Bon, déjà quand on lance peut-être notre fermentation qui d'ailleurs prend du temps, et aussi vu qu'on n'a pas encore peut-être une grande chaîne de production, mm-hmm. où on doit être là forcément chaque jour, quand on a lancé notre fermentation et qu'on a appelé à suivre juste que ce soit la température ou bien l'évolution des degrés Brice, pour ceux qui vont peut-être comprendre. Non,
quand on dit degrés, il faut nous expliquer comment aussi ils comprennent. Degrés Brice, c'est qui?
En fait, ça renvoie au sucre. En
ah,
fait,
d'accord, voilà. Ok. Au taux de sucre dans le...
Le sucre dans le mou.
Ok, d'accord. Donc, on n'a pas besoin de venir vérifier tous les jours.
Non, pas tous les jours.
C'est quoi? C'est une fois par semaine au moins. Le reste du temps, on est dans les activités champêtres.
En effet, en effet. Et bon, pour le bonbon, puisque lui, beaucoup plus on le produit à la demande. Parce...
Pourquoi à la demande? C'est en fonction des points... Justement, les endroits où on trouve le vin, on trouve les bonbons?
Oh, pas encore pour le moment.
Ok.
Pas encore, mais d'ici peu, puisqu'on va
lancer une nouvelle production.
Lancer une nouvelle production, immédiatement, on va distribuer dans tous les points de vente du vin actuellement. On va le faire au plus vite. Et comme j'ai dit à la demande, déjà le bonbon, lui, ne prend pas assez de temps pour produire.
C'est quoi, c'est une journée?
Oui, c'est déjà fait de 30-40 minutes maximum, on a lancé une production. C'est qui, le
et
reste,
on peut avoir combien de paquets de bonbons par production?
Déjà par jour, mm-hmm. nous on peut facilement faire, on fait les 50 paquets.
Okay.
50 paquets par jour.
Mm-hmm.
Donc du coup, on essaie d'enchaîner au fur et à mesure qu'il y a, le besoin, il y a la demande, on essaie d'enchaîner.
D'accord, aujourd'hui par cycle de production, vous avez à peu près combien de litres de vin? C'est quoi l'objectif de chaque cycle de production?
Disons que ça évolue mm-hmm. quand même forcément avec le temps. Au départ, on a commencé tout petit quand on était dans nos expérimentations. Aujourd'hui, on est pratiquement sur 150 litres de vin produit d'un seul coup de fermentation, en fait.
D'accord. Et ça arrive quoi? Une fois par mois, tous les deux mois, c'est par trimestre?
Forcément, c'est une fois par mois.
Ah, d'accord. Donc, 150 litres, c'est sûr que tous les mois, vous produisez ça et que les 150 litres sont partis.
Mais aussi, on se rassure aussi, bon, puisqu'il y a d'abord ce temps de vieillissement, oui. qui va aussi être là. Et puis, selon aussi le stock mis en bouteille est aussi en train d'être écoulé, il faut toujours se rassurer de produits. Dieu merci, en fait, on est entré tout récemment sur le marché, mais ça commence à sortir, il y a les gens qui en demandent, mm-hmm. ça plaît bien aux gens et on espère en avoir au maximum de consommateurs de nos vins.
D'accord. Un tel projet, j'ai envie de dire qu'on le lance avec quel capital? Il faut combien à peu près? Ou du moins, vous vous souvenez avoir investi combien au départ?
J'ai commencé tout petit. Je dirais avec de 30 000 francs, j'ai acheté. Déjà, le matériel de production ou alors le matériel de viticulture, mm-hmm. ça ne se trouve pas à la boutique du coin.
Oui.
Il faut chercher.
Mais ce n'était pas compris dans les 30 000.
Comme je vous dis, j'ai commencé d'abord par les expérimentations. Mm-hmm. Ce n'était pas encore une production oui. en tant que telle. J'ai commencé d'abord à acheter le strict nécessaire oui. pour le petit test qu'il me fallait.
Mm-hmm.
J'ai commencé avec ça. Et quand je me rendais compte que non, il me faut ci, il me faut ça. Aujourd'hui, je suis plus ou moins assez outillé déjà pour la production.
Mm-hmm.
Et aussi, j'ai d'abord commencé forcément toute seule et puis bon, créer mm-hmm. autour de moi une communauté de personnes avec qui je travaille actuellement.
D'accord, et ces personnes ne travaillent pas gratuitement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même déjà un peu l'argent. Justement, si on veut être distributeur, comment est-ce qu'on procède?
Pardon.
Si on veut distribuer vos produits, pour ceux éventuellement qui écoutent et que ça intéresse d'avoir vos produits dans leur espace.
Bon, directement, il faut forcément appeler et commander à notre niveau. On va prendre les dispositions pour les satisfaire.
D'accord. Et en termes de certification, on en est où?
Oui, bon, actuellement, nous sommes à la norme.
Mm-hmm.
Et nous sommes à la norme pour forcément suivre notre dossier de certification. Il y a tout un cheminement à oui. suivre. Et puis, bon, on est là-dessus et on essaie d'évoluer par la grâce. On espère que d'ici peu, on va finir avec.
D'accord, c'est toujours intéressant pour les gens de savoir que oui, le process est quand même déjà entamé et qu'il y a quand même un niveau de contrôle. Mm-hmm. Maintenant, votre principal canal pour vous faire connaître, c'est quoi? C'est plus les réseaux sociaux ou plus les foires?
Bon, pour le moment, c'est plus les réseaux sociaux. Quand on organise des fonds, on se rassure à être présent. Bon, disons que jusqu'ici, depuis qu'on a lancé notre commercialisation, nous sommes sur deux fois. La première, c'était au palais de congrès organisé, une conférence organisée par le ministre des petites et moyennes entreprises. Mm-hmm. Où on a eu quand même une petite opportunité de présenter notre produit.
Oui.
Bon, par la suite, c'était
le SADAV.
Le SADAV, voilà.
Ah, vous n'avez pas pu participer au SAR Rally, malheureusement, ce qui fait que vous ne faites pas partie des gens qui ont été sélectionnés pour aller au SIARC. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a quand même d'autres événements en vue auxquels vous avez prévu de participer ou pour l'instant, non, on est concentré sur la production, sur la recherche de partenariats?
Oui, bon, on prévoit quand même, en fait, on s'est enregistré récemment pour le Yafé à Yaoundé,
oui.
Voilà, qui aura lieu en décembre.
Mm-hmm.
Donc, ceux qui sont à Yaoundé vont peut-être avoir l'occasion de voir.
Il n'y a pas d'événement à Douala en décembre, je ne sais pas. Je pensais que quand on est à Kékém, on arrive plus facilement à Douala qu'à Yaoundé. Je ne comprends pas cette ultra proximité avec Yaoundé.
Bon, disons que j'ai eu beaucoup d'opportunités déjà par là-bas pour le moment.
Mm-hmm.
Douala aussi, c'est une autre ligne de mire, comme on dit souvent.
D'accord, donc à Douala, ça va, c'est plus lent.
C'est plus lent un peu à Douala. On espère avoir aussi au maximum de consommateurs du côté de Douala.
D'accord, jusqu'ici, en deux mois de mise sur le marché, de commercialisation de votre produit, est-ce qu'on va dire quoi? Financièrement, vous rentrez déjà dans vos frais ou bien non, on amortit encore ça?
Pour le moment, on a moitié encore. Notre souci est d'abord de faire connaître notre produit au mieux, mm-hmm. faire valoir au mieux notre produit, mm-hmm. avec les dégustations et tout et tout et tout. Forcément, ce sont des coûts qu'on supporte à notre niveau pour le moment.
D'accord. Est-ce que quand même, en étant, on va dire quoi, nouvelle arrivée sur le marché, vous avez quand même discuté un tout petit peu avec vos devanciers dans ce secteur-là, parce qu'il y en a qui font du vin, qui sont sur le marché depuis longtemps. Question de voir un tout petit peu les réalités du marché ou vous faites votre propre expérience?
Bon, je suis entré en contact, avant même d'entrer dans le marché, je suis entré en contact avec d'autres producteurs de vin,
mm-hmm.
qui malheureusement ne m'ont pas donné quelque chose de satisfaisant. Bon, je me suis dit que peut-être moi, ils m'ont trouvé comme étant un concurrent. Bon,
Non, la collaboration, c'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué, en fait. Mm. Bon, déjà, moi, je suis un autodidacte, j'apprends, je fais beaucoup de recherches. Et aussi, actuellement, j'ai intégré le groupe Assegna.
Oui.
Déjà, avec
eux. Oui, avec tout le réseau de Karine Andela, ça va forcément porter ses fruits. On salue d'ailleurs son travail et tout ce qu'elle fait depuis à peu près 2017-2018 pour mettre en lumière les entrepreneurs.
Oui, c'est une grande dame.
D'accord, on espère que justement cette intégration, cette appartenance à ce réseau va vous aider à pousser quelques portes, à saisir quelques opportunités au passage. Monsieur Ekwopman, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous parler de cet hydromel.
Merci.
Voilà, on a terminé avec notre passager du jour. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite. Nous sommes de retour dans ce studio. Il est pas encore vraiment 11h30, mais on va prendre de l'avance aujourd'hui pour nous rendre au marché. Et on va dire qu'on achète du manioc.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
En allant acheter les bâtons de manioc mangés avec le coq, la vendeuse en question m'a vendu le bâton à 100 francs qui était autrefois vendu à 50 francs. Je me suis alors demandé pourquoi le manioc, pourtant abondant dans nos villages, devient-il parfois difficile à trouver ou trop cher en ville. Pour comprendre, je suis allé au marché des PK14. Je m'aventure vers les allées boueuses du marché sous le ciel menaçant et je croise Tata Sandrine qui peine à me recevoir à cause de ses nombreux clients, une affluence qui fait mendier que ce tubercule est vraiment sollicité. Sur son étal, on retrouve essentiellement le manioc rouge et blanc. Elle finit donc par avoir un peu de temps et m'explique les raisons de la rareté du manioc en cette période et sa provenance.
Non, en saison pluvieuse, le manioc est rare. Parce que quand il pleut, les gens ne vont pas en bout creuser le manioc. Et en saison sèche, la terre est dure. On fait avec. Ce qu'on peut trouver, on fait avec.
Et il y a combien de types de manioc?
Il y a manioc blanc, manioc rouge, manioc patate, manioc igname. Manioc blanc, c'est pour tremper, on peut râper, on peut les bâtons. Le manioc rouge, c'est pour manger du véhicule. Et le manioc patate, n'est-ce pas? D'autres aiment ça pour la médon. Mon manioc vient de Pouma, Mangoulet, la gare routière. Et on a aussi parfois les livres qui nous livrent le manioc. Mais il prend 500, 2200 francs. Non, le manioc blanc est fait pour tremper. Mais par moment, d'autres cuits, mais le manioc blanc, c'est pour tremper. Les clients se plaignent du manioc parfois ça a les racines. Aujourd'hui, ça n'a pas cuit. Parfois, c'est jaune. Parfois, c'est amer. Parce que ce n'est pas tous les jours que tu peux tomber sur la même marchandise. C'est pour cela. Tu sais, le commerce est le tombola.
Bon manioc, ça sort de quelle ville?
Le bon manioc, soit ça sort de Pouma, soit ça sort de Yabassi, mais il y a aussi le manioc de Mungu, de Bamleke là. C'est bon, mais ça cuit Mungu, mais ça n'a pas le bon goût. Mais le bon manioc, c'est le manioc Bassa.
Et comme quelquefois, il y a le manioc qui ne cuit pas malgré le temps passé au feu. Je lui demande également comment reconnaître le bon manioc.
Comment faites-vous reconnaître le bon manioc?
Pour dire vrai, le manioc c'est un tombola. Pour dire c'est bon, demain ce n'est pas bon. Connaître le manioc qui n'est pas bien, c'est... Après il y a le manioc qui soit lolo. Il y a les boutures de manioc, il y a les sélectionnés. Le manioc sélectionné n'est pas un bon manioc. Ça veut dire que ce sont les boutures blanches. Mais les boutures rouges, c'est le bon manioc.
Plus loin, dans les allées, je m'arrête près d'une cliente qui vient de remplir son sac.
Je recherche ce qui est bien et ce que je peux manger. Je retrouve, je suis satisfait dedans.
Comment vous faites pour reconnaître le bon manioc?
Pour reconnaître le bon manioc, c'est un peu difficile à expliquer parce qu'il faut être quelqu'un qui connaît déjà ce qui est bon pour connaître ce qui est bon à étant à distance. Moi, en premier moment, je ne connais pas ce qui est bon, donc je fais confiance parfois aux vendeurs ou bien aux vendeuses.
Est-ce que le prix vous arrange?
Parfois, ça ne m'arrange pas. Bon, parfois, on ne peut rien vu qu'eux aussi, ils achètent aussi cher pour pouvoir venir aussi nous vendre aussi.
Vous avez déjà eu une mauvaise surprise avec le manioc que vous avez acheté au marché?
Ah oui, plusieurs fois. Tu achètes souvent, c'est dur. Quand tu achètes, c'est là, c'est bon comme tous les autres que tu vois. Mais quand tu mets ça au feu pour faire bouillir, c'est là où après tu te rends compte que c'est devenu dur, ce n'est pas cuit.
Au cours de mes recherches, j'ai également découvert l'existence du manioc jaune, une variété pas très connue. Aliment de base des ménages, le manioc s'illustre sous plusieurs formes. Tubercules, bâtons de manioc, tapioca, couscous de manioc ou encore farine de manioc. Riche en amidon et en fibres, il nourrit des milliers de foyers chaque jour. Mais pour le consommateur, les défis restent les mêmes. Trouver un manioc de bonne qualité, à un prix abordable et sans mauvaise surprise à la cuisson. En 2020, le Cameroun en a produit environ 5,7 millions de tonnes pour une valeur estimée à 350 millions de francs CFA. Et les projections sont ambitieuses, soit 7,5 millions de tonnes attendues en 2025 et jusqu'à 10 millions en 2030, selon les chiffres du Minader en 2021. Pourtant, malgré son poids économique, une grande partie du manioc se perd encore, faute de transformation industrielle. Derrière chaque bâton de manioc vendu au marché, il y a une histoire, celle des producteurs qui se battent contre les saisons, des commerçantes qui affrontent les difficultés de conservation et des consommateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Mais une chose est sûre, je ressors de cette enquête bien édifiée pour savoir quel manioc utiliser pour la cuisson des bâtons afin d'éviter la flambée des prix des vendeuses de manioc.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Merci à Vialingeya pour ce tour au marché. J'ai envie de dire que, en tant que consommatrice de bâtons de manioc, vraiment, même si le manioc est cher, comment, en fait, au moins un bâton qui est le bâton de manioc et pas ce qui est rempli de feuilles. En tout cas, j'ai envie de dire que la curiosité, c'est le manioc jaune que j'espère que je verrai et que je dégusterai très prochainement. Il est temps de marquer l'escale de ce programme et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Théo. Eh bien, c'est un confrère, il est journaliste.
Escale dans Classe Éco.
Dr Edouard Pakrimé. Je suis journaliste. Alors, un journaliste, c'est celui-là qui part à la quête de l'information. Il analyse, il crée cette information et donne cette information au peuple. Ouais. Donc, parfois, on édifie le peuple, on informe le peuple et on sensibilise le peuple. Alors, pour être journaliste au Cameroun, le parcours académique, il est simple. On obtient d'abord son baccalauréat, parce qu'il faut, avoir le baccalauréat, de préférence d'une série littéraire, donc ACAC espagnol ou ACAC allemand. Ensuite, on s'inscrit dans une université. Après une université publique, on a l'ESTIC qui est là, on a des universités privées. Il y en a plusieurs, ISAM, Cianto, ISTAG, ils sont tellement nombreux. Et là-bas, parce qu'il faut faire la différence, il y a communication, il y a journalisme, il y a marketing. Si on veut être journaliste, on peut faire journalisme. Et à l'intérieur, bon, au Cameroun, on ne se spécialise pas encore. C'est lorsqu'on travaille déjà au sein des médias qu'on va se spécialiser auprès de certains mentors qui vont vous apprendre les rouages et les codes, pas du métier, mais de certaines spécialités. Faire le terrain beaucoup de choses. Donc, comme je l'ai dit, il y a un parcours, vous pouvez avoir un BTS ou alors continuer jusqu'en licence, master, pourquoi pas docteur et professeur en journalisme. Donc, comme je vous ai dit, une fois déjà avec la licence, vous vous spécialisez. Il y a ceux qui prennent journalisme politique, journalisme économique. Mais non, il y a d'autres qui font dans une autre sorte de journalisme. C'est-à-dire que par exemple, médecin, tu as une formation de médecin, tu te rends dans une université où tu peux apprendre la communication médecine. C'est comme ça qu'on peut désormais t'appeler journaliste, bon, pas journaliste, spécialiste en communication médecine. C'est pour ça qu'il y a des journaux comme Eco-Santé qui apparaissent. Vous allez trouver que là-bas, ce n'est pas des journalistes politiques qui écrivent, c'est des spécialistes de la médecine qui sont de ce côté. Maintenant, ils donnent leur spécialité et sous la plume, par exemple, de certains journalistes qui ont fait presse écrite. Voilà, parce qu'il faut spécifier qu'en journalisme, on a la presse écrite, on a la radio, la télévision et on a le web. À ne pas confondre avec les webmasters ou alors les community managers. Non, on peut être communicateur ou webmaster d'une page, mais pas être journaliste. Donc, il y a maintenant aussi des journalistes tels qu'Alexandre Ruiz qui produisent au niveau du net. Alors, journaliste, pour moi, on va dire que c'est une passion. Parce que moi, ayant grandi au village avec mes grands-parents, il n'y avait que deux moyens de distraction. Aller jouer au football et écouter la radio. Lorsque on rentrait le soir de l'école, après son bain, c'était la radio. On s'est habitué à écouter les Tata Michel, les Alain Belibi, ils sont tellement nombreux. On a Job, j'ai encore certains génériques de Job dans ma tête qu'on écoutait. Ils sont tellement Sébastien, Mimbo et Fouda, c'est Blaise, qu'on écoutait Bébé les Boucs tôt le samedi matin. Le soir, on avait le journal qu'on écoutait. Donc, ce qui fait qu'on s'est habitué à écouter tellement la radio qu'à un moment, j'ai développé en moi l'envie d'être aussi écouté. Vous voyez, j'ai développé l'envie d'être écouté. Et surtout qu'étant tout petit, on me disait, tu bavardes beaucoup ou ceci. Donc, je voulais toujours édifier, mais à une portée plus grande. C'est comme ça que une fois devenu grand, lorsqu'on a eu notre baccalauréat, on s'est posé des questions, on est d'abord allé faire droit, mais après l'amour de ce métier qu'on a commencé à faire dans l'informel, c'est-à-dire qu'en allant de temps en temps assister aux émissions des autres, on s'est dit mieux vaut se professionnaliser et faire de les choses bien. Alors, le souci, c'est qu'on a le premier problème, vraiment. C'est au niveau du financement. Quand on va pas vous mentir, certains aînés ont eu l'habitude de nous dire, on s'est dit que c'est du mensonge. Le journaliste ne gagne pas grand-chose. Au Cameroun, le journaliste n'est pas encore assez rémunéré à sa juste valeur. Et quand il est même rémunéré, c'est en monnaie de singe. Le journalisme te donne, par exemple, la célébrité. Lorsque tu passes à la télé, on te voit. Mais lorsque tu quittes les quatre murs, là, tu quittes ce micro ou cette caméra, les poches sont vides. On ne rémunère pas encore assez les hommes de médias au Cameroun. Surtout que pour la plupart des organes de presse au Cameroun, c'est détenu par des personnes privées. Et généralement, ils font plus d'efforts au niveau du matériel et négligent un autre matériel qui est l'apport du personnel physique. Donc, c'est un peu ça. Ah, le journaliste, non, travaille toute la journée. par exemple, je me réveille pratiquement à 5 heures. Si tu dois passer à la matinale, tu te réveilles à 5 heures. Je te rassure que tout ce que tu as fait, tout ce que qui doit passer le matin à 6 heures est prêt. Donc, vous savez, en journalisme, on dit toujours être là minimum 30 minutes avant. Donc, si ton émission commence à 6 heures, tu dois être là minimum à 5h30. Pour ceux qui font la matinale, par exemple, si tu commences à 7h, 6h, quand tu dois être là. Et maintenant, après ça, il y a les conférences de rédaction, tout le reste, tu dois descendre sur le terrain. Et lorsque tu finis la journée, on sait que la journée d'un vrai journaliste finit après le journal. Parce qu'il faut voir si ton élément a été bien passé au journal, si tu as bien fait. Généralement, le journal finit au Cameroun 20h30, 20h, 19h30. Ce qui fait que lorsque tu finis, tu dois checker ta journée de ça pour essayer de voir ce que tu as fait de bien et que tu peux améliorer. Et maintenant, tu dois commencer à chercher les sujets de demain. C'est-à-dire qu'à pratiquement 20h30, 20h lorsque tu rentres chez toi, c'est pas pour un repos vraiment. C'est que tu manges, tu te reposes, tu te relances dans les recherches pour que le matin, tu puisses encore édifier ceux qui vont t'écouter ou alors vont te regarder sur ce qui s'est passé la journée d'hier. Bon, la famille à première vue regarde le côté financier. Est-ce que tu auras même l'argent là-bas? Est-ce que tu vas pouvoir subvenir aux besoins de la famille? Une fois ça, maintenant on va regarder, est-ce que, par exemple, moi pour mon cas, lorsque j'étais dans un célèbre média où un journaliste avait été tué de manière tragique, ma famille a tout de suite eu peur. La peur a envahi la famille. Au point où, parce que nous on a été sur écoute, au point où ma famille a clairement pris ma puce, on a cassé, on a pris. Donc la peur rien à la maison. On avait peur de t'appeler. Donc c'est dans ces conditions-là que parfois la famille a peur. Mais il y a aussi dans certains cas où on te voit à la télé, on se dit « Ah, voilà mon fils, voilà mon frère, ils sont plutôt fiers. » Donc, ils sont parfois mitigés. Ça dépend juste des revenus. Parce que tu peux être le plus grand journaliste, si tu ne rapportes rien à ta famille financièrement, on va te traiter d'irresponsable. On va dire que tu vis aux dépens de X, Y. Bien sûr, pour moi, vous savez, on dit le journaliste, c'est le quatrième pouvoir. Vous savez, vraiment, je me dis, si tout le monde était journaliste, voyait les choses avec l'œil d'un journaliste, il y aurait certains mots qui n'existeraient pas. Parce que lorsque tu mènes une enquête, parce qu'il faut le dire, les journalistes mènent aussi des enquêtes comme des policiers. Lorsque tu mènes une enquête ou tu regroupes une information sur un sujet, tu as parfois froid au dos d'apprendre certains faits. Donc, pour moi, c'est un très beau métier qui mérite juste d'être valorisé, que je conseillerais à beaucoup. Parce que même individuellement, ça te cultive. Lorsque tu rencontres un journaliste, qu'il soit même un journaliste sportif, politique, quelle que soit la question d'actualité que tu vas lui poser, il pourra te répondre. Il pourra facilement te dire ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe au Gabon. Et vraiment, c'est d'abord une fierté personnelle parce que tu te sens utile. Vous savez, lorsque le matin, on vous appelle pour vous dire « Ceci, il y a vu telle information, est-ce que c'est vrai ?» et que tu peux aider les gens, vraiment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur.
Escale dans Classe Éco. Tout savoir sur les dernières innovations dans Classe Éco.
L'innovation dont on parle aujourd'hui concerne tous ceux qui ont, on va dire, des petites activités. Au lieu de poster dans plusieurs groupes sur les réseaux sociaux, prenez peut-être rendez-vous sur la plateforme YubaWeb où vous trouverez des mécaniciens, des informaticiens, des fiscalistes, des architectes, des déménageurs, des auto-écoles. En fait, YubaWeb est dédié aux offres et services. Il n'y a pas de risque que le service que vous êtes en train de promouvoir se noie dans une pile de commentaires, comme ça peut être le cas dans les différents groupes ou différentes pages. Il vous suffit donc de taper sur cette plateforme-là, mécanicien, peut-être dans la ville de Yaoundé, pour en trouver un. Donc, si vous êtes à la recherche de petites mains ou si vous faites partie de ces petites mains-là, rendez-vous sur yubaweb.online. On va terminer en parlant encore d'économie, mais cette fois sur le continent. Dans une récente étude, l'OCDE apporte de nouvelles perspectives sur le commerce alimentaire en Afrique de l'Ouest. Alors que les chiffres officiels l'estiment à 1,7 milliard de dollars par an, la compilation de plusieurs bases de données sur le commerce non enregistré, telles que les études nationales et le travail réalisé par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, montre qu'il s'élève à au moins 10 milliards, un niveau qui vient bousculer les idées reçues sur les échanges de denrées dans la région. Afrique Économie, c'est avec le concours de RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Le suivi des denrées et des prix, c'est son métier. Mouamadou Diaye est le coordinateur du réseau des systèmes d'information des marchés en Afrique de l'Ouest et le défi d'apprécier les marchandises non enregistrées, son quotidien.
Nous qui sommes dans les marchés, nous savons qu'effectivement, il y a ces produits. On peut savoir auprès des commerçants en les interrogeant pour savoir quand même ce produit, il vient d'où. C'est dans les marchés, vous pouvez juste connaître le niveau d'approvisionnement du marché, mais également connaître les prix. Mais quant à savoir exactement le tonnage, j'ai dit, c'est très difficile. Sûr, ça a un impact sur la sécurité alimentaire parce que très souvent, il y a certains pays même aujourd'hui qui sont en train de faire des interdictions de sortie de certaines denrées.
Ce travail de compilation inédit dresse un portrait bien différent de celui communément admis du commerce alimentaire dans la région. Une diversité de marchandises alimentaires plus importante et du commerce largement répandu entre l'ensemble des États. Un bilan qui change la donne lorsque vient le temps de faire des choix. Alban Massa Parisi, économiste à l'OCDE, auteur du rapport.
Les décideurs politiques et même les acteurs privés ont une relative méconnaissance de d'où se situent les opportunités de marché régional parce qu'on n'a pas de données comme on peut avoir dans d'autres régions du monde sur la taille réelle des importations alimentaires et d'où proviennent ces importations, c'est-à-dire combien importe le Nigeria, du Bénin, etc. par produit. Donc là, c'est aussi ça l'enjeu, c'est de pouvoir avoir des meilleures évidences pour guider les politiques de soutien, de promotion aux exportations, par exemple, que des pays mettent en œuvre. Par exemple, quand on a fait nos analyses, le Nigeria, dans les données officielles, est le 8e importateur régional alimentaire. Quand vous regardez les données qu'on a retravaillées, il passe premier. Ça vous donne une idée de à quel point les données sont faussées.
Un commerce intra-régional qui se révèle donc beaucoup plus important, c'est le cas des tubercules ou des céréales locales, quasi absentes des statistiques officielles, avec des conséquences sur l'appréciation de la résilience alimentaire dans la CDAO.
La question des interdictions aux exportations qui continuent de se produire dans la région et donc qui sont extrêmement contre-productives parce qu'elles nuisent à la fois à la production locale en coupant les producteurs de ces marchés régionaux vers lesquels il y a déjà des circuits et donc qui sont abîmés, on va dire, par ces mesures-là qui constituent donc un frein à la production nationale et tout en nuisant à la sécurité alimentaire de la région puisque s'il y a des interdictions mutuelles, les produits circulent moins de diversité, moins de disponibilité. Et aussi prix plus élevé.
Près de deux tiers des productions alimentaires régionales, en excluant le cacao et la noix de cajou, seraient ainsi en réalité déjà destinées aux pays de la CDAO.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Après ce point économique précisément en Afrique de l'Ouest, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était un plaisir une fois de plus de passer ce vol en votre compagnie. Merci d'avoir été des nôtres et surtout rendez-vous demain pour un nouveau vol en Classico.
Retrouvez tes émissions préférées à toute heure.
Que ce soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.